On va du coup poursuivre de l'espace d'exposition. On va se tourner du coup vers un témoignage, un retour d'expérience d'un projet qui s'appelle Mythorama, qui a été développé donc au MACVAL, au Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne. Donc autour de la table, les deux artistes, Léna Araguas et Julien Taubert, avec Pauline Cortinovis, qui est chargée des actions et des partenariats éducatifs au MACVAL, Jérôme Pierre-Jean, qui est professeur d'art plastique au collège Jean Lursa à Villejuif, et professeur relais de la DAC de Créteil au MACVAL, donc qui a accompagné aussi le projet, qui l'a porté également, avec une modération de Philippe Dorval, donc, qui est professeur d'art plastique à l'IUT de Rennes et spécialité carrière sociale et aussi une autre casquette, président du Vivarium, atelier artistique mutualisé basé à Rennes. Voilà, je vous laisse la parole.
Ils sont beaux. Ils sont jeunes. Et ils vont tellement bien ensemble. Laodami Protésilas. Tout le pays est venu assister à leur mariage. Tout le pays est venu les voir dire oui. On les accompagne jusqu'au palais, on célèbre, on fête. Puis, ils se retirent dans la chambre nuptiale. Ils sont beaux. Ils s'aiment. Au matin, depuis le balcon, ils voient arriver un navire. Ce sont les Grecs qui viennent chercher Protésilas. Il doit partir pour la guerre de Troie. Il n'a pas le choix. Mais ils ont encore une heure ensemble. Alors pendant une heure, ils en profitent. C'est achevé. C'est le moment pour Protésilas de rassembler ses affaires. Il embrasse une dernière fois son épouse et il part. Du regard, elle l'accompagne. Et longtemps, elle reste fixée à l'endroit où le bateau a disparu sur la mer. Mais dans les jours qui suivent, c'est comme s'il était toujours là. Sa voix, sa chaleur, sa présence. Et les jours et les mois se succèdent. Pendant ce temps, Protésilas est arrivé sur les rives de Troie. Au moment où les Grecs vont descendre, le devin dit « Le premier qui posera le pied sur les rives de Troie sera aussi le premier à mourir. » Et personne ne se dévoue. Il en faut bien un. Protésilas. » Quand elle apprend la nouvelle de sa mort, Laodamie ne pleure pas, ne crie pas, ne se lamente pas, elle s'enferme dans sa chambre. Elle implore chacun des dieux, un par un, de lui rendre Protésilas pour une heure. Et il faut croire qu'elle est particulièrement convaincante, car les dieux laissent Protésilas quitter les enfers pour une heure. Quand cette heure se termine, elle ne le laisse pas repartir seule, elle l'accompagne. Alors juste avant de continuer, on avait envie de commencer comme ça parce qu'on va parler de récits par rapport à des œuvres. C'est vraiment le centre de tout ce qu'on a fait. Je vais aller m'asseoir au milieu. Mais du coup, on avait envie, pour que ça ait un peu plus de corps, que vous viviez ça. Voilà. Donc, on a choisi une œuvre qui était dans l'exposition sans réserve, qui était au MacVal. Et j'ai choisi une vidéo parce que c'est ce qui se transporte le mieux en dehors d'un musée. Et voilà.
Bien, bonjour à tous. Alors, on va passer en mode Mythorama, qui est le nom de la résidence qui a été menée pendant 2 ans au MacVal. Alors, je ne sais jamais si Vitry ou Ivry, à chaque fois, Vitry sur scène. Donc, une résidence longue avec beaucoup de gens impliqués, beaucoup d'acteurs différents impliqués. Donc, juste pour resituer, donc Julien Taubert, qui est conteur, Léna Aragoas, qui est graphiste, Pauline Cortinovis, qui est chargée des projets éducatifs au MacVal, et Jérôme Pierre-Jean, qui est donc professeur d'art plastique et professeur relais au MacVal. Et donc là, on a à peu près la physionomie d'un projet partenarial incarné, disons, sur l'estrade. Donc, juste pour vous donner l'ampleur du projet, quand je disais que c'était un projet lourd et complexe, c'est que quand j'ai reçu les documents, ça faisait un peu peur. Le projet pesait 38 gigas de données. Donc, autant dire que il y a de la matière, alors informatique, mais il y a de la matière évidemment. Et donc là, l'idée, peut-être dans un premier temps, c'est de pouvoir saisir les entrées et les points de vue et progressivement de rentrer dans la logique du projet lui-même voilà, pour en saisir la physionomie. Donc, je ne sais pas qui...
Donc, moi, je suis conteur. Mon métier, c'est de raconter des histoires. Je ne sais faire que ça. C'est comme ça que je me présente en général quand on commence une séance avec des classes. Mais c'est comme ça que je me présente partout où je vais. Au MacVal, j'ai été invité depuis un certain nombre d'années. On a essayé de retrouver, mais je ne sais plus.
2011.
2011, merci. Depuis 2011, je viens faire des visites comptées. Donc, c'est des visites qui sont dans le musée et on s'arrête sur des œuvres. Et soit c'est une histoire pour une œuvre, soit c'est une histoire qui passe d'œuvre en œuvre. Voilà, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Vraiment, je trouve que ça me nourrit beaucoup. Les histoires circulent, ça me fait voir mes histoires différemment, et ça fait voir les œuvres comme jamais je les vois quand je suis un simple visiteur. Donc, j'ai eu envie d'en faire plus. Et je suis revenu voir le MacVal, au début, avec l'idée de faire une édition, un catalogue parallèle, où on aurait, à chaque accrochage des collections, il y a un catalogue avec une œuvre et une explication. Ben, moi, je voulais faire une œuvre et une histoire, un fragment. Puis finalement, ça ne s'est pas fait comme ça. Parce que des histoires de où trouver de l'argent, de quelle forme. Et ça a pris la forme d'une résidence de territoire avec des classes, une résidence en milieu scolaire qui n'étaient pas en milieu scolaire. Et en fait, c'était encore mieux. En tout cas, on a découvert beaucoup de choses. On a créé donc un travail qui s'est fait sur 2 années. Sur chaque année, on a travaillé avec 4 classes qui revenaient chacune 4 fois ou 5 fois, ça dépend comment on compte, plus des classes qui venaient en plus de manière ponctuelle, plus un travail avec tous les médiateurs, plus du temps de recherche, la présence de Léna qui était graphiste depuis le début, et puis du temps pour chercher, pour se planter, pour changer de direction, pour essayer, pour faire venir des intervenants. Voilà, ça a été ça de manière très vite, avec cette idée de, il y a ces visites comptées, comment est-ce qu'on partage ça avec des élèves, avec là, on était avec des collégiens et des lycéens. Au début, c'était, je leur racontais, et puis quelles traces on pouvait laisser, mais très vite, on a laissé tomber ça, et ça a été comment eux, ils peuvent raconter, et surtout comment ces récits leur permettent de s'emparer des œuvres, de s'emparer du musée à leur manière.
De toute façon, on va laisser défiler le diaporama et ça ne va pas du tout être en accord avec en illustration de ce qu'on racontera, ou en tout cas avec des délais et des échos, parce qu'on le laisse tourner en boucle, c'est plus simple que de le commenter de manière linéaire. Pour compléter ce que disait Julien, pour nous, il y avait plusieurs enjeux. Donc, comment accueillir au mieux à la fois les classes participantes et les deux intervenants, donc Julien et Léna. Trouver le bon format, le bon rythme, la bonne organisation aussi dans une équipe des publics où on est 12 personnes. Donc c'est pas tout à fait représentatif du nombre de personnes impliquées. On est beaucoup plus que 4 dans ce travail-là. Et il y avait peut-être, pour vous donner un peu une idée, en fait, chaque fois, on a fonctionné sur des semaines pleines où Julien et Léna étaient présents au musée. Julien vivait même au musée, en fait. Répartis dans l'année scolaire, à peu près tous les mois et demi. Novembre, janvier, février, mars et puis avril, à peu près. Et du coup, ce qui nous permettait, pendant une semaine pleine, que à la fois les intervenants, les enseignants, les élèves et l'équipe aussi soient pleinement dans le projet, et un vrai confort par rapport à ce projet, et soit moins dans le morcellement qu'on peut connaître dans les institutions culturelles où on suit 1000 choses à la fois. Donc d'avoir une unité de temps et d'espace où on puisse se rassembler, se retrouver. On avait réservé des espaces pour cela, où les classes se succédaient, où se rencontraient, et du coup on pouvait voir le travail évoluer, le reprendre là où une autre classe l'avait laissé. Nous, on pouvait y travailler quand il n'y avait pas de classe. On avait à minima un temps collégial entre professionnels sans les élèves, voire 2 ou 3 temps, en fait un minima 2 temps, voire 3 ou 4 temps par semaine, où on pouvait aussi développer des labos sans le public jeune, tester des choses, tester aussi avec des collègues qui font l'accueil surveillance ou avec des collègues qui étaient invités plus ponctuellement, documentalistes, conservateurs, etc. etc. Donc c'était aussi trouver un format qui nous permette de bien travailler. Et puis par rapport, il y avait des vrais enjeux sur ce qu'on allait pouvoir éprouver comme lien ou comme frottement entre le corpus de la mythologie grecque et la collection du musée. Et puis plus largement, nous, ce qu'on avait envie d'éprouver aussi, de tester aussi, c'était la... Et c'est quelque chose qui est inscrit dans le projet scientifique et culturel du MACVAL et qui se prolonge dans des missions auxquelles on a participé, comme la mission Musée du XXIe siècle sur la participation des publics, les droits culturels, etc. C'était aussi de voir quelle place l'institution, à cet instant de son histoire, était capable de faire à d'autres formes de commentaires, à d'autres outils, enfin, à d'autres pratiques. Donc il y avait des enjeux peut-être un peu plus méta. Que le projet venait... on a dit qu'on ne disait pas projet, mais enfin, que notre travail... Non, on s'en fout. Que le travail venait mettre en jeu. Donc un temps long qui dépasse un petit peu les temps de projet justement habituels, qui nous donnait beaucoup d'espace pour aussi rater, chercher tout ça.
Et puis une édition aussi à la fin.
Oui, et on a gardé, même si ce n'était pas un catalogue parallèle, la question de l'édition est restée au centre, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu l'intuition assez rapidement, et en dialogue avec les graphistes aussi qui portaient la charte graphique du musée, d'inviter Léna. On s'est rencontrés peut-être 6 mois en amont du début du projet. Donc en fait, c'était déjà le début du projet. C'est pour ça que ce n'est pas un projet. On travaille depuis 2011 ensemble, ça ne veut plus dire grand-chose. On ne savait pas trop comment on allait travailler ensemble, mais on savait qu'il fallait que tu sois là dès le début pour accompagner en fait, voilà, le process. Aussi parce qu'on avait un des premiers enjeux qu'on a identifié, même si ça s'est élargi après et complexifié, c'était comment partir d'une tradition orale, le conte, et comment en garder trace pour que des personnes non présentes au moment de l'expérience puissent en garder quelque chose ou se l'approprier ou y entrer plus tard avec du délai. Voilà. Le graphisme, l'outil graphique, c'était très important en fait, pour pouvoir trouver ces solutions-là. Ou en tout cas chercher des choses.
Bonjour. Alors, moi j'ai invité une classe de 6e à participer à ce projet. Et comme il y a des enseignants dans la salle, vous allez peut-être vous reconnaître un petit peu dans cette chose qui, pour moi, a été un élément déclencheur pour le projet. C'est que quand on a une classe, la parole de l'élève, la verbalisation, ça peut toujours être un souci parfois. C'est une chose très importante. Les élèves sont obligés de parler de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils voient. Et en tant que professeur d'art plastique, moi, j'essaye le plus souvent de créer des situations de dialogue en accrochant les travaux des élèves. Et puis, chaque élève prend la parole librement pour commenter son propre travail ou le travail de son camarade. Et je me rends compte qu'on se concentre beaucoup sur les intentions. J'ai eu l'intention de faire ça, donc pour arriver à ça, j'ai mis ça en œuvre, etc. Et au final, on a très peu de temps pour regarder les travaux, mais vraiment regarder. Et je me disais que ce projet-là, ça pouvait être l'occasion, pour une fois, malheureusement de court-circuiter les intentions de l'artiste, parce qu'on plaque une histoire qui n'est pas celle de l'œuvre. Mais du coup, au final, et on s'en est rendu compte pour beaucoup d'élèves, c'est que grâce à cette façon de parler des œuvres, on a obligé les élèves à davantage regarder les œuvres pour essayer de créer une logique avec l'histoire qu'ils auraient choisie. Et du coup, pour moi, la vraie réussite de ce projet, c'est peut-être ça. C'est amener passer par la porte de derrière pour rentrer dans l'œuvre. Et puis ensuite, peut-être, si on en a envie, raccrocher avec les intentions de l'artiste ou ce que l'œuvre voulait vraiment dire. Mais finalement, le fait de vraiment prendre le temps pour la regarder, est-ce que ce n'est pas en découvrir des choses que l'artiste lui-même ou d'autres personnes n'auraient pas vues, mais qui sont de toute façon contenues dans l'œuvre. Voilà. Donc, on y est allé dans l'idée aussi de décomplexer la parole au maximum. Et voilà. Bon, je reprendrai la parole plus tard.
L'édition, ça vient peut-être un peu tôt sur le déroulé de cet échange, mais c'est du coup moi peut-être ma position dans les 2 ans de résidence où les premiers ateliers, on a mené ça de manière de façon assez classique en fait, c'est-à-dire que Julien comptait, on revenait en atelier et les élèves avaient pour mission de créer une trace de ce qu'ils avaient eu dans les espaces d'exposition. Et avançant, ils ont formulé d'autres envies, donc de dire, de se mettre à la place de Julien. Et les enjeux graphiques se sont un peu déplacés, c'est-à-dire que c'était pas, eux étaient plus en train de créer des formes graphiques, ils créaient du discours. Et moi, j'étais plus devenue comme une sorte d'outil pour mettre en place des exercices avec les élèves, pour garder trace des moments de verbalisation par les élèves dans les salles d'exposition et d'imaginer des systèmes graphiques pour sur la deuxième année de la résidence leur permettre de transmettre permettre à Julien de leur transmettre des histoires en essayant de se libérer au maximum de son vocabulaire à lui et d'essayer que les élèves reprennent leur vocabulaire pour singer le rôle du conteur. Et cette question de l'outil, c'est quelque chose qu'on a essayé de garder dans la publication finale, qui se compose de deux parties. Une première partie qui revient sur l'expérience du Macval, qui essaie d'en rendre compte avec sa complexité, et une deuxième partie qui est plus une mise à disposition des outils qu'on a utilisés pendant ces 2 ans de résidence. Voilà, à peu près.
Peut-être faudrait préciser sur le recours à la mythologie, c'est pas non plus toute la mythologie, toutes les mythologies. Le choix a été quand même resserré. Peut-être ça peut être.
Alors, c'était pas ce qui était voulu au début. Moi, j'avais l'envie, quand je suis arrivé avec cette idée de catalogue parallèle, d'avoir une sorte d'encyclopédie de la mythologie qui reprenne tous les mythes. Et avec l'intégralité des collections du Macval, et d'avoir une sorte de chose encyclopédique. Bon, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Et ensuite, quand on est rentré vraiment dans la matière, je me suis dit, je vais prendre 2 histoires qui sont des histoires d'origine. J'ai pris l'histoire d'Io, qui est à l'origine de pas mal d'histoires, et notamment de toute la dynastie des rois d'Argos. Et puis j'ai pris une histoire qui est moins connue, qui est l'histoire de Teucros, qui est une des origines de la famille royale de Troie. Et je me suis dit, on va partir de ça, et puis tout au long de l'année, on va pouvoir décliner la généalogie, ça va être super. Et puis en fait, d'avoir 2 histoires, c'était déjà suffisant. Et donc pendant une année, on a joué avec ces 2 histoires à passer de l'un à l'autre. L'année suivante, j'ai ramené plus de matière, plus de récits à explorer. Disons que l'idée avec cette mythologie, c'était d'avoir une matière de récit. On aurait pu partir sur autre chose, c'est juste que moi, c'est la matière qui m'habite, c'est une matière que je travaille par ailleurs beaucoup depuis maintenant une dizaine d'années, et que donc c'était quelque chose que j'avais aussi envie de transmettre. Et que ça a été l'idée, c'était que les récits servent à s'emparer du musée, à s'emparer des œuvres, mais aussi que les œuvres servent à s'emparer de ces récits. Mais peut-être juste, moi, ce que j'avais là où j'avais envie de rebondir, c'est sur ce que c'est que cette histoire de raconter des histoires par rapport aux œuvres, puisque c'est quand même le thème de cette journée, et puis que, enfin, moi, c'est vraiment au cœur de ma pratique. C'est de prendre des histoires qui n'ont pas été faites pour être racontées sur ces œuvres, de prendre des œuvres qui ne font aucune référence à ces histoires, ou alors j'ai pas fait attention, et de voir comment elles peuvent dialoguer. Et c'est vraiment une histoire de dialogue. Et en fait, y a des moments où il y a des... Enfin, vous avez vu peut-être sur la vidéo qu'il y avait tout à l'heure avec l'histoire, il y a des moments où ça marche très bien, il y a des moments où ça suit des chemins un peu parallèles, il y a des moments où tout d'un coup ça fait voir les choses différemment, et c'est ce jeu-là où les histoires affûtent le regard qu'on a sur le récit, les œuvres affûtent l'oreille qu'on porte à l'histoire. C'est ce jeu-là qui est le mien vraiment quand je raconte des histoires face à des œuvres. Et c'était vraiment de le partager avec des collégiens, avec des lycéens, et qu'eux-mêmes jouent à ça. Et je dois dire que, enfin, au début, c'était pas ce qui était voulu. C'est arrivé en essayant, en élaborant. Vous devez les voir défiler. Il y a eu des cartels. On a créé des cartels mythologiques où il y avait des fragments de mythologie, et on donnait un cartel. On disait, tiens, tu prends ce cartel, tu pars dans le musée et tu trouves l'œuvre qui lui correspond. Et c'est étonnant de voir quand on donne le même cartel avec la même histoire à plusieurs groupes, ils vont trouver des œuvres différentes. Et à chaque fois, c'est justifié. C'est pas l'œuvre à laquelle j'avais pensé. Et c'est troublant ce qu'ils arrivent à voir dedans. C'est vraiment... Après, il y a des fois, c'est un peu plus anecdotique. Mais ils se mettent à regarder les œuvres alors qu'au début, ils avaient plutôt... les bras croisés et le regard fermé.
Et Julien, en fait, ce que tu dis, c'est important, parce que quand on envoie des élèves dans le musée, souvent la première réaction, c'est je vais chercher l'œuvre que j'aime bien, quoi. Ou l'œuvre que je crois comprendre, ou alors je m'arrête devant l'œuvre que je trouve vraiment nulle et on se fend la poire. Sauf que là, tu leur donnes le cartel, il faut trouver l'œuvre qui correspond à cette histoire. Tout d'un coup, on oublie un petit peu ces premiers réflexes que l'art contemporain suscite souvent, d'ailleurs pas que chez les enfants. Quand on est devant quelque chose qu'on ne comprend pas, on a souvent la solution ou de facilité ou de rejet. Là, en fait, ça permettait de tout simplement l'oublier, quoi.
Ça me fait penser à ce que tu disais, Florence, sur la notion de loyauté. Je pense que dans ce travail-là, elle se situe à un autre endroit. Dire qu'il n'y avait pas de loyauté au discours de l'artiste ou de l'institution ou du commissaire. Il n'y avait pas de loyauté facilement identifiable à cet endroit-là. Par contre, elle était dans l'engagement à trouver des liens et à les remettre en partage dans le groupe, à les mettre en jeu dans le groupe et de voir si ça fonctionnait et de le soumettre à un auditoire, en fait, à une communauté de personnes. Par rapport aussi à ce que tu disais, Jérôme, je pense que tu l'as bien dit dans un des textes qui participe de l'édition qu'on est en train de boucler, on parle aussi du fait que le fait de rapprocher des objets qui semblent très éloignés, d'une manière un peu oulipienne, en fait, ton projet de départ, c'était extrêmement oulipien. Il y avait une immense tableur Excel avec toutes les œuvres de la collection, tous les liens possibles à des épisodes de la mythologie. Enfin, c'est un objet qui est magnifique, c'est presque une œuvre conceptuelle, quoi. Mais ce truc qui, a priori, n'est pas fonctionné, ça fait que... En fait, ça demande une qualité de regard et de mise en relation et de travail qui est assez immense. Et une autre chose aussi par rapport au rôle du médiateur, ça nous a complètement déplacés. C'est-à-dire qu'on accompagnait les récits de Julien ou des élèves. Les nôtres étaient peut-être mis au second plan. Parfois, ils étaient sollicités justement pour voir les écarts. Et ça, ce que tu dis bien dans ce texte, c'est que ça fait ressortir en fait... la relativité des discours sur l'œuvre, quel qu'il soit, que ce soit le discours de l'institution qui peut sembler scientifique, objectif, on parlait de positivisme tout à l'heure, là, on voit en fait la relativité de chaque récit, en fait. Et ça permet aussi aux élèves de s'autoriser des récits en voyant que tout est très relatif, je pense. Et en même temps, très important, engageant, mais relatif. Voilà.
Et alors, justement, à propos de s'autoriser des récits, on l'a vu passer là tout à l'heure, mais ça a débouché sur des mises en forme de discours avec un système de triple cartel. Donc le cartel avec les informations scientifiques, le cartel rédigé qui existait, et puis le cartel mythologique, enfin, je mets ça entre guillemets, mais voilà, et avec des phases intermédiaires de cartels biffés, enfin, voilà, mais qui ont été montrés dans le musée, dans les espaces du musée. Comment ça s'est joué et comment ça a peut-être déplacé à l'intérieur du musée, auprès des autres visiteurs, des familles, des élèves, enfin voilà. Comment le fait que la parole tout d'un coup vienne prendre une forme, une place inscrite, voilà, comment ça a peut-être déplacé des choses?
Dire rapidement quelque chose par rapport à ce jeu sérieux avec un vrai engagement. Déjà, avant même qu'il y ait une réception par d'autres, par des personnes extérieures à ce travail, c'était assez beau, je pense. En tout cas, moi, j'ai trouvé assez émouvant de voir je dis beaucoup le même mot, mais l'engagement et l'implication des élèves au moment de vraiment acter, de coller, en fait, de coller le cartel. Il y avait un grand plaisir quand même là-dedans.
Peut-être que ça part un peu ailleurs, mais c'est-à-dire que les cartels, c'était une manière de se réapproprier aussi l'espace du musée. Et quand Julien leur tendait un cartel en leur disant « trouvez l'œuvre », c'était aussi une manière de déambuler seul dans le musée, pas en groupe ou en tout petit groupe. Et c'est vrai qu'on a vu au fur et à mesure de l'année où le musée devenait leur espace, il s'était approprié, il s'allongeait. Et c'était aussi des manières de désacraliser le rapport, enfin en tout cas, moi, c'est comme ça que qu'on a essayé de le penser aussi, mais désacraliser le rapport à l'œuvre, à l'espace du musée et au discours qui dit qu'il y a une bonne manière de voir, ou enfin qui suppose une manière juste ou pas de regarder l'œuvre.
Oui, et puis le fait d'accrocher les cartels, ça avait quelque chose de solennel, d'important, et qui disait aussi beaucoup de choses sur la place de ce discours-là par rapport à la place du discours officiel. Et ça a beaucoup questionné la place aussi que cette parole-là est là dans le musée. On est au Macval, dans un musée pour qui la place des publics, la question des publics est quand même très importante. Moi, j'ai travaillé dans un certain nombre de musées, et c'est rare les endroits où on a cette place-là pour développer ce genre de projet, où on a ces budgets-là aussi, c'est des termes financiers, mais ces temps où on a... Mais même là-bas, c'était pas évident. Il y a eu des choses qui ont été compliquées. Il y a eu un vernissage de presse où on a dû décrocher en urgence des cartels biffés parce que ça n'avait pas été prévu. Mais qu'est-ce que les journalistes vont en penser ? Mais pour nous, c'était important de dire que cette parole qui est portée, qui est une parole ouvertement fictionnelle, pas vraie, elle a de la valeur aussi, et que dans un musée, quand on est face à une œuvre, c'est pas pour dire que la parole officielle n'a pas d'importance, bien sûr que si, mais le regard qu'on peut porter soi en tant que visiteur, il a aussi son importance, et les histoires qu'on se raconte dans sa tête, elles ont aussi leur importance. Et là, de jouer à placer une histoire qui n'a de manière objective rien à voir avec l'œuvre et de voir quel lien on peut créer, c'était une manière aussi de mettre ça en avant, en forme. Voilà, et puis de dire que tous les discours qu'on porte, en fait, sont fictionnels. C'est des histoires qu'on crée, c'est des histoires...
Puis c'est amusant de voir dans un projet... Au départ, on se rend compte qu'on bouleverse un peu les codes du musée. Il y a aussi l'équipe du musée, qui n'est pas l'équipe des publics, mais qui s'est un petit peu inquiétée aussi de cet envahissement de cartels. Pas tous, ça va être... C'était pas violent, mais il y a la question qui s'est posée.
On a été soutenus quand même, ouais. c'était quand même bien vu.
Il y a une histoire dans le Macval qui fait qu'on a de la chance qu'on ait soutenu sur ce genre d'initiative. Mais il y a eu quand même, à un moment donné, pas des crispations, mais des interrogations. Et puis c'est marrant de voir l'évolution de ce travail qui finit par être encodé avec des signes incompréhensibles pour ceux qui ne les ont pas inventés ou qui ne les ont pas habités. Donc c'est plutôt intéressant, quoi.
Oui. Parce qu'après, vous avez peut-être vu passer à un moment des sortes de signes kabbalistiques. Ça, c'est la deuxième année. On a essayé de travailler sur la... Sur la notion d'oralité. En tant que conteur, moi, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur des textes qu'on apprend, on travaille sur des histoires qu'on s'approprie. On prend une histoire et on la raconte à sa manière. On peut lire deux ou trois versions de la même histoire pour chercher à trouver la sienne propre. Et le travail du conteur, c'est aussi de créer sa version. Et la première année, quand je donnais les cartels aux élèves, quand on faisait la présentation, ils lisaient le cartel, puis ils parlaient de l'œuvre. Et quand ils parlaient de l'œuvre, il y avait des choses qui sortaient d'eux très profondément. Et quand ils lisaient, il y avait quelque chose qui tombait à plat. Et donc, sans faire un travail de travail sur l'oral, on n'a pas du tout travaillé sur les techniques de la narration, les techniques du conte, mais juste sur la question de la transmission, de transmettre une histoire sans les mots. C'est ça qui était vraiment le cœur. Et donc il y a ces symboles que vous avez dû voir passer. Voilà, il y avait des petits rouleaux comme ça au début. Chaque rouleau, c'était une histoire. Et sur ces rouleaux, il y avait des petits symboles qu'on va peut-être voir un peu après. Bon, bref. Des symboles qui n'étaient pas des symboles qui avaient un sens en eux-mêmes, mais qu'on pouvait charger. Il y avait des ronds, des carrés, toutes sortes de formes. Et l'idée, ce n'était pas que chaque symbole avait une signification, c'était que celui qui écrivait donnait une signification à chacun de ces symboles et pouvait transmettre ensuite l'histoire à quelqu'un d'autre en lui disant, voilà, c'est l'histoire de ci, de ça, de ça, de ci. Et puis tu vois, ça, c'est telle partie de l'histoire, ça, c'est telle autre partie, parce que ceci, parce que cela. Et quand on repartait avec ce petit, euh, ce, ce petit rouleau de signes kabbalistiques, ben on avait l'histoire. Et quand on nous l'avait expliqué, on était capable de dire « Ah oui, ben c'est parce qu'il y a ça, ça, puis ça. » Et puis, il y a des choses qu'on oubliait, qu'on déformait un petit peu, des choses qu'on améliorait un peu, parce que quand ça avait été transmis, bon, c'était un peu léger, ça. Et c'est exactement ça, la transmission orale. C'est exactement comme ça que les histoires populaires se sont transmises. Et c'est ça qu'on avait envie de partager par des moyens un peu artificiels, en fait.
Là, on voit le signe chargé par Julien et le signe approprié par un groupe d'élèves qui change de devise. C'est exactement le même signe. Voilà.
Et sur le commentaire, alors le Macval, dans ses publications, je pense évidemment à l'art peut-il se passer de commentaires qui avaient été marquantes. Mais qu'est-ce que cette résidence a changé sur le rapport aussi des élèves et puis des enseignants, enfin de tous les participants. Parce que un des premiers rapports à l'œuvre, c'est sur le registre du commentaire, quoi. J'aime, j'aime pas, c'est beau, c'est moche, ça me plaît pas, voilà. Et là, de se mettre en action, de produire des choses, qu'est-ce que ça a déplacé par rapport à ça ?
Mais je crois que quand les élèves étaient dans l'action, ils se posaient absolument pas cette question, parce que Julien et Léna mettaient en place des activités tellement... moi, je les trouvais relativement complexes. Il y en a certaines que j'ai pas compris, que les élèves ont compris dès le début. Après, je comprenais où vous vouliez en venir. Parce qu'on peut ajouter aussi qu'on est vraiment dans un processus, un vrai process. C'est-à-dire qu'il y a des codes qui sont inventés, mais la séance d'après, ces codes qui ont été inventés sont réutilisés pour faire d'autres choses, des blasons. Et ces blasons sont réutilisés par une autre classe qui n'a pas connu les codes, mais qui doit inventer des devises. Donc, en fait, c'était vraiment dur à suivre, ce projet. Donc, j'imagine pour vous, là, vous devez être un petit peu largué. Du coup, qu'est-ce qu'en retiennent les élèves pendant la résidence? Ils n'avaient pas le temps de penser à tout ça. J'aime l'œuvre, j'aime pas l'œuvre. D'ailleurs, ils ont plus aimé les œuvres parce qu'ils finissaient par un petit peu les investir. Ensuite, quand moi je les ai retrouvés en classe, quand je leur montrais des œuvres d'artistes, manque de bol, hein, enfin, on n'avait pas forcément cette expérience qui était toute immédiatement réinjecté dans la vie de tous les jours. Il y a les vieux réflexes qui reviennent. Mais moi, j'avais la possibilité de leur dire « Oui, mais regardez, maintenant, vous avez une œuvre. Vous n'en connaissez rien du tout. Ça pourrait être une œuvre du Macval. Qu'est-ce que vous feriez ? » Alors, pas la peine de raconter une histoire, l'histoire des Grecs, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'observer l'œuvre et puis d'établir des connexions ? Donc là, du point de vue de l'observation, j'ai plus besoin de leur expliquer ce que c'est qu'observer une œuvre. Ils savent qu'il faut un certain temps et puis il faut se donner ce moment pour le faire. Toutes les classes n'ont pas eu l'occasion de faire ce projet, donc tous les élèves n'ont pas eu ce privilège de pouvoir regarder les œuvres de cette manière-là. Mais d'ailleurs, le projet qu'on a fait, l'édition, c'est l'intention, c'est aussi de pouvoir la transmettre à d'autres personnes pour qu'ils puissent eux-mêmes expérimenter cela, pas forcément de manière dans la même chronologie ou sous les mêmes formes, mais avec des intentions qui pourraient être identiques. Voilà, c'est toujours dur hein, de pouvoir évaluer en fait l'effet d'un projet. On peut donner des feuilles à la fin d'un projet, pour que les élèves remplissent dans des cases ce qu'ils en ont pensé. C'est pas ça, en fait, le retour. On a bien aimé, on n'a pas aimé, on retombe sur les mêmes absurdités, en fait. Non, je pense que le retour, on pourra le sentir dans quelques années. C'est toujours comme ça, quoi.
Quand même, dans certains questionnaires, on avait quand même des indices de ratage à certains endroits ou de réussite à d'autres. Par exemple, le fait que en fait, on a eu une approche géographique du musée avec des endroits où on n'est jamais allé ou des endroits où on n'est pas allé tout de suite et que des élèves exigent qu'on aille au deuxième étage ou qu'ils n'en peuvent plus de ces œuvres mais qu'ils veulent un nouvel accrochage ou au contraire que cette œuvre leur manque ou qu'ils aimeraient continuer le projet dans un autre musée. On voit quand même là des dynamiques d'implication assez fortes. Même si c'est pas j'ai aimé, j'ai pas aimé. Là, on le voit clairement dans des demandes.
Des revendications, presque.
Oui, c'est des revendications, mais qui ont été intégrées au projet dans le cadre de comités de pilotage où les élèves étaient invités à participer. Certains l'ont fait volontiers, même si c'était ponctuel. On a eu deux ou trois fois des élèves Il y a eu une élève à toi, il y a eu des élèves de lycée aussi. Mais on le voit, en fait, l'impact que ça a, même si c'est relatif, parce que je pense qu'il n'y a pas que le projet qui permet à ces élèves de penser comme ça. C'est aussi dans ce genre de... Ou aussi, par exemple, la table de symboles que Léna avait redessinée et compilée, qui nous a servi, de voir que d'un coup, en fin de projet, dans un temps plus ouvert, on donne une consigne ou une invite pour que les élèves expriment quelque chose de ce qu'ils ont traversé à l'aide des symboles, et que là, on les voit les investir d'une toute autre manière et de commencer de faire des récits complètement conceptuels et fous à partir de ces symboles dans un espace un peu plus lâche, un peu plus libre. Donc en fait, on voit qu'ils s'approprient ces outils pour leur propre travail. Et du coup, c'est peut-être aussi une forme de réussite hors de la consigne. Là, on voit qu'il y a... Ouais, moi, je dirais ça à ces endroits-là.
Et peut-être sur la question du régime de l'appropriation, parce que, par rapport à ce que tu disais, le fait qu'ils deviennent un peu exigeants pour certains sur l'accrochage, à renouveler, à changer, à modifier. Voilà. Est-ce que la résidence a permis aussi de créer les circonstances d'une familiarité culturelle pour à la fois les élèves, les établissements, les nombreux profs qui ont participé à ça?
Non, pour les élèves, il y a eu des choses drôles qui se sont passées avec le musée, notamment au bout de la deuxième ou troisième séance, quand on a été dans le musée plusieurs fois déjà, on se retrouve en salle d'atelier avant d'aller dans le musée, et puis je leur raconte des histoires, je leur confie des histoires par petits groupes, et je leur dis, ben voilà, chaque petit groupe a une histoire, vous allez devoir trouver une œuvre. Et ben, il y en a plusieurs qui savaient déjà quelle œuvre ils voulaient avant même d'aller dans les salles. Ils connaissaient suffisamment les œuvres pour savoir quel lien ils allaient pouvoir faire, et ils se précipitaient dans le musée. Et puis c'est cette histoire aussi des accrochages qui ont évolué, et de la tristesse de « Oh, il n'y a plus cette œuvre !» Et c'est d'une appropriation. Après, ce n'était pas tous les élèves, forcément. Il y a toujours des façons de rentrer dedans différentes, mais oui, il y avait un espace qu'ils ont fini par bien connaître, des œuvres qu'ils reconnaissaient, ils avaient une certaine familiarité avec.
Et peut-être un autre indice de, entre guillemets, d'appropriation ou du fait d'habiter un lieu, et ça rejoint ce que disait Émilie tout à l'heure sur les corps et comment les corps travaillent ou vivent un espace. C'est, je ne sais pas si vous avez vu les photos, elles ont déjà dû tourner plusieurs fois, mais on voit les élèves allongés. Et ça, ce n'est pas tout de suite. Il y a eu un désapprentissage des postures, en fait, d'écoute et tout ça, ou de travail, et pour qu'au bout d'un moment, il y ait un vrai confort, en fait, dans les espaces, qui était bien accueilli aussi par les collègues qui s'occupent des salles, qui les surveillent. Mais nous, ça nous a frappé. On a même une collègue qui, a dans sa contribution écrite à l'édition, a parlé de comment le sol était transformé par les pratiques, le sol du musée, le plancher du musée, ce qui devenait. Il devenait tapis de danse, il devenait humus, il devenait en fonction de ce que les corps vivaient et traversaient. Donc ça, c'est peut-être un indice assez subtil, mais quand même, quand on voit des gens qui s'autorisent à être allongés pendant une demi-heure tranquille dans le musée sans qu'on leur dise « tiens-toi droit ». Voilà.
Et alors peut-être, je ne sais pas si c'est passé, je n'ai pas vu, à propos de se tenir droit, sur les postures du discours, vous avez un outil très particulier dans le musée. Est-ce que tu peux en dire un mot?
En fait, il y a pas mal d'outils comme ça au MacVal. On commence à avoir une grosse panoplie d'outils qui sont support au discours ou qui, au contraire, permettent de se passer de discours, en tout cas au sens de l'oralité, quoi, de la parole. Vous avez dû le voir passer aussi, parce que j'ai l'impression qu'on a fait plusieurs fois la boucle. Il y a une sorte de tribune à roulettes, genre une brouette tribune qui a été créée. C'est une commande, en fait, du musée, un artiste qui s'appelle Rémi Bosker, et qui a été produite en 2011 dans le cadre, en fait, des Maintenant, ça s'appelle interlude critique. Avant, ça s'appelait « Eh bien, je vais vous le dire. Voilà pourquoi, eh bien, je vais vous le dire. » Ou, au départ, cette sorte de tribune mobile de médiation, hein, tribune mobile de médiation, T2M, servait à des professionnels et posait l'endroit du discours sans qu'on ait à dire « ça va commencer, venez, c'est par là que ça se passe », d'une manière peut-être plus fluide et moins autoritaire, entre guillemets, même si, en fait, il y a un effet d'autorité immense, mais qui passait par d'autres circuits. Et là, on l'a réinvesti. Au départ, elle n'était pas destinée à des élèves ou à des participants à un projet, mais on l'a réinvesti avec eux. Mais on a mis du temps à trouver cette solution, parce que les élèves voulaient faire comme Julien. Enfin, pas tous. Hein. Certains élèves voulaient absolument performer comme Julien. Et on a tâtonné pour trouver en fait, comment...
En fait, je me souviens, il y avait eu une série de tentatives où, lorsque les élèves avaient trouvé l'œuvre qui correspondait au texte ou vice-versa, par petits groupes, il y avait une restitution orale. Et devant le reste des camarades, ils devaient raconter leur histoire, ou en tout cas expliquer quels sont les éléments clés de l'histoire qui correspondent à l'œuvre. Et malheureusement, les élèves, à ce moment-là, ils sont très intimidés. En plus, dans le musée, il n'y a pas que notre classe qui y travaille. Donc, on ne s'entendait pas, et surtout, on n'entendait pas ce que les élèves disaient. Donc, entre eux, vous savez bien ce que c'est, quand des élèves ne parlent pas assez fort, qu'il y en a d'autres qui sont censés écouter, on les perdait tous, en fait. Donc, il y avait l'idée de cette tribune, Julien l'avait vue à plusieurs reprises, et en se disant, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser? Et on s'était dit, si on fait monter les élèves sur cette tribune, peut-être que ça va leur donner une sorte de présence et qu'ils vont peut-être vouloir jouer le jeu de l'orateur, parler plus fort. Et les autres sont peut-être un tout petit peu plus intimidés par le fait que, par la suite, c'est eux qui vont devoir monter sur cette tribune. Donc, quand ils savent qu'ils vont devoir aussi se donner en spectacle, peut-être ils se tiennent un peu plus à carreau. On avait un meilleur résultat, mais on avait quand même ce problème d'élocution où les élèves ne se faisaient pas forcément bien comprendre. Et puis, par la suite, on a encore réfléchi à d'autres solutions où, lorsque les élèves restituaient leur histoire, il y avait un conférencier qui notait tout ce qui se disait, et puis à la volée. Et puis, une fois qu'ils avaient terminé, le conférencier lisait à voix haute, tel que ça avait été dit, avec leurs mots, leur histoire. Donc, du coup, il y avait le moyen aussi de réentendre ce qu'ils venaient de dire. Et, enfin, je ne sais pas, en termes de réappropriation et de transmission, il y avait une sorte de va-et-vient qui était assez intéressant, en fait, qui responsabilisait les élèves. Ils disaient, ah, ça va être redit, peut-être qu'il faudrait qu'on travaille un peu plus le nôtre. Voilà.
Et c'est là qu'on disait tout à l'heure qu'on était à un autre endroit de la médiation, puisque nous, on était vraiment là comme support ou comme miroir, comme un miroir vocal de ce que les élèves pouvaient produire, plutôt que comme commentateur au centre du dispositif qui articule le dispositif. Voilà. On voulait vous faire écouter, en fait, j'ai essayé de trouver des pistes audio à peu près audibles, parce que c'est bricolé tout ça, des élèves en train de commenter des œuvres. C'est certaines des œuvres qui étaient dans le diaporama, même si on ne va pas pouvoir les mettre forcément facilement vis-à-vis. Mais on voit, en fait, plein de stratégies de prise de parole et plein de manières d'agencer, de mettre en lien le fragment, le récit et l'œuvre dedans. Tu veux ?
Et on a trouvé une autre stratégie aussi pour les faire en sorte qu'ils s'impliquent davantage. Julien leur a dit, pour certains, vous êtes les spécialistes. Vous êtes des spécialistes de cette œuvre, vous êtes des spécialistes de cette histoire. Racontez-nous. Donc, en fait, c'était assez intéressant de voir... lorsqu'on pose un petit peu cette incitation de « je vais jouer un personnage », tout d'un coup, c'est plus moi qui parle. Donc, je me permets d'utiliser même un certain lexique que je ne maîtrise pas trop, mais un lexique de spécialiste. Et puis aussi, une façon de bouger les mains, la tête, une façon aussi de regarder son comparse pour un petit peu avoir l'aval de ce qui vient d'être dit. Il jouait un petit peu les adultes. Et du coup, c'était aussi intéressant parce qu'il y avait... ce désir de transmettre quelque chose de manière un peu sérieuse et puis surtout qu'il y avait le cachet du spécialiste. Quoi.
Alors on va vous faire écouter, la qualité du son est très mauvaise, c'était juste un enregistrement témoin. On va voir si ça passe quand même.
Arrête un petit feu, retourne-toi. Alors bonjour, nous allons vous présenter La naissance des sirènes et cette œuvre. Donc pour commencer, Perséphone a décidé d'être une déesse vierge, tout comme Athéna. Donc Aphrodite s'était énervée à ce moment-là et a envoyé Eros pour piquer Hadès avec une flèche. Donc il est tombé amoureux de Perséphone et il l'a enlevé. Des jeunes femmes qui accompagnaient Perséphone sont allées la chercher aux quatre coins du monde, mais elles ne l'ont pas trouvée. Donc elle allait en enfer.
Donc en tout, en fait, le tableau il représente le moment où les anges... Non, pas les anges. Donc du coup en fait les femmes comme elles ont pas retrouvé Perséphone, elles ont décidé de se suicider. Et sur le moment, en fait, elles ont commencé à crier. Et un dieu avait trouvé que c'était magnifique leur cri. Et il a décidé de les sauver. Et il a fait en sorte que les femmes ont des ailes et des pattes d'oiseau durant leur élan. Et du coup ça représente le moment où elle saute et elle se transforme.
Donc cette œuvre, comme vous pouvez voir, elle est très vide. Et en fait, on peut penser que de cette œuvre, elle peut représenter la distance entre Sirène et Perséphone. On peut aussi voir que les deux personnages ici peuvent représenter aussi des sirènes. On peut voir qu'elles sont très recroquevillées pour aussi leur souffrance physique à cause de la transformation et la souffrance intérieure suite à la perte de Perséphone. On peut aussi voir qu'elles sont habillées de couleurs très sombres, quasi noires, qui peut représenter ensuite les funérailles, suite déjà à la perte de suicide déjà de sirène et à la perte de Perséphone.
Et du coup, comme l'a dit Anika, en fait, elles devaient se suicider, mais elles sont pas mortes parce que du coup le dieu en question les a sauvées. Et en fait, elle voulait pas du tout vivre, et du coup, elle était en quelque sorte condamnée à vivre, et elle ressentait une sorte de haine. Et pour exprimer cela, en fait, elle se mettait sur des rochers, et en fait, leur chant, ça attirait tout le monde tellement c'était beau. Et du coup, quand il y avait des marins qui passaient, elle se mettait à chanter pour les attirer vers elle, sauf qu'à cause des rochers, les marins, ils coulaient et ils finissaient par mourir. Et du coup, c'était une sorte de vengeance pour elle. En fait, elle se vengeait sur toutes les personnes qui passaient en les... condamnant à mourir alors qu'elle ne voulait pas forcément.
C'est un grand triptyque de Jamel Tata blanc, une texture de neige un peu avec deux personnages qui partent en haut à droite et à gauche sombres. Qui sont des sortes de silhouettes. Il a observé des silhouettes de personnes recroquevillées au sol, qu'il a mis dans l'espace comme ça. Elle est dans le diaporama. Mais... En fait, c'est assez. Là, on n'a pas le temps, mais c'est assez beau d'écouter en série ces commentaires parce qu'il y a énormément de stratégies, probablement un peu intuitives. C'est pas.
Oui, on peut sentir à certains moments qu'il y a eu des choses qui ont été préparées, et puis ils sentent que ça marche pas du tout. En fait. Ce qui s'était dit entre eux, une fois qu'il y a des gens qui les écoutent, et puis le stress fait qu'ils ont oublié un grand pan de leur explication, ça se casse la figure. Et puis il y a des stratégies d'invention immédiate, donc ils se regardent, il y a des concertations. C'est pour ça qu'à écouter, c'est intéressant aussi. C'est franchement pas professionnel, évidemment, mais il y a des choses très 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 fines. Essayer de récupérer l'erreur en inventant des choses sur le moment. Mais ça, c'est uniquement possible parce qu'ils ont suffisamment observé l'œuvre pour pouvoir improviser à ce moment-là. Quoi. Et les autres élèves ne le sentent pas du tout. Et on n'était pas forcément intéressé non plus de faire des captations sonores ou vidéo de bonne qualité. C'était pas, on n'était pas parti sur...
C'est de l'oralité.
Ouais.
Et alors, à propos d'oralité, une des particularités aussi de cette résidence, donc, qui s'adressait à des classes, deux classes de sixième, une classe de secondaire appliquée, une première STMG, enfin voilà, des classes.
Il y a neuf classes qu'on participe.
Mais s'adressait aussi à des élèves allophones. Alors, est-ce que sur la question du rapport au langage, au discours, à l'écrit, voilà, est-ce que vous pouvez en...
Bah, non, on a eu des publics très différents qui réagissaient effectivement de manière différente, forcément, plus ou moins d'aisance à parler, plus ou moins de facilité à rentrer aussi dans les contraintes qu'on proposait. Après...
Ce que tu nous disais pendant le déjeuner, c'est qu'il y a certains élèves allophones qui ne se retrouvaient pas forcément dans les histoires mythologiques au niveau culturel.
C'est... Oui, moi j'aime
Zeus,
bien
ça résonnait pas forcément.
La mythologie grecque d'une manière générale parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. Et effectivement, avec ces classes allophones, là il y avait des adolescents qui étaient arrivés depuis peu de temps en France, en Europe même, et dont c'était pas du tout la culture et à qui ça parlait pas. Et qui ne savaient pas qui c'était Zeus. Alors que vraiment, c'est assez rare dans une classe de ne pas savoir qui est Zeus. Mais après, ce n'était pas dérangeant non plus, ce n'était pas un problème. On s'était dit au début qu'on allait traiter les différentes classes de manière à chaque fois particulière. Et puis au final, on ne l'a pas du tout fait. Chacun s'appropriait les choses à sa manière, différemment, mais c'était à chaque fois intéressant. Alors, voilà, c'est dur de parler plus spécifiquement que ça.
Il y a peut-être une chose qu'on peut rappeler aussi dans le projet, c'est que ce qu'a produit une classe de sixième par exemple, va être réutilisé par une classe de troisième, qui va être réutilisé par une classe... niveau supérieur, qui va être réinjecté dans la classe de sixième. En fait, chaque niveau n'a pas travaillé sur la même chose. Ils ont produit des choses qui ont servi à continuer le projet par d'autres classes. Donc, du coup, à un moment donné, il y avait plus ce niveau de difficulté qu'on ajuste en fonction des classes. Et chacun recevait ce qu'avaient produit les autres.
On était beaucoup dans une circulation et dans une création collective, dans une réappropriation des œuvres qui étaient dans le musée, mais aussi de ce que produisaient les autres.
Il le savait. Et c'était plutôt pas mal le jour de la restitution, où toutes les classes étaient là, de la sixième jusqu'à... C'était plutôt intéressant de voir les différences d'âge, même physiquement, des très grandes et assez petits. Et en fait, ils avaient tous partagé un bout de cette histoire et un bout de ce projet.
Voilà, du coup, vous avez eu un aperçu assez brouillon de toute cette de deux années, mais c'est que ça a été très riche. On est parti dans beaucoup de directions, ça a changé beaucoup d'espaces, d'endroits. Donc peut-être s'il y a des questions, on peut répondre. Je ne sais pas si on a encore le temps pour des questions. Oui.
On a 10 minutes pour les questions, donc
si on veut tenir le temps. Peut-être on peut faire dans ce sens-là. C'est pas obligé non plus.
C'est les mots qui me viennent.
C'est bon. En fait, Jérôme, tu étais le seul prof d'art plastique.
Sur la deuxième année, pas sur la première. J'étais avec un prof de, ouais. Un prof de lettres aussi.
Lettres, art plastique, on a eu des profs d'économie-gestion.
Espagnol.
Espagnol, UPE2A, du coup aussi. Art appliqué. C'était encore un peu différent.
Mais j'ai l'impression que, quand même, c'était uniquement les profs qui étaient présents. Lors qui étaient présents au musée, qui étaient partie prenante dans le projet. Je ne suis pas sûr que ça a été retravaillé par ailleurs avec les professeurs des autres matières. Ce n'était pas en tout cas notre sujet, et ça s'est peut-être fait de manière ponctuelle, mais pour nous, on n'en a pas su beaucoup. Quoi. Y a pas eu de...
C'est vrai que quand il s'agit de projets culturels, hein, vous le soulignez, c'est que... Il y a des habitudes qui s'installent dans des établissements. On a souvent le professeur d'art plastique. Ah ben on va mettre la musique aussi parce qu'il y a l'oralité. Et puis on va peut-être mettre le professeur de lettres parce qu'il y a l'histoire des Grecs. Je crois que c'est un projet qui pouvait traverser n'importe quelle discipline dans la mesure où c'était comment je parle aux autres, qu'est-ce que je transmets dans n'importe quelle classe. Même un professeur de PS, à un moment donné, va être confronté à ce genre de choses quand il s'agit de restituer quelque chose. La question de l'oralité, en plus, elle devient tellement importante maintenant au collège, avec plus tard au lycée, cette idée du grand oral. Donc, non, je crois que un prof de technologie, un prof de PS, s'y serait tout à fait retrouvé dans ce programme. L'idée du codage. Ouais.
C'est vrai qu'on n'a pas orienté, en tout cas, vers une reprise pédagogique derrière.
Il n'y avait pas d'accroche, en fait. Hein. Ce n'était pas un projet qui disait c'est bon pour les profs d'histoire et les profs de lettres. Ouais.
Ouais. Ce que je voulais savoir, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait une bonne équipe au Macval. Et je voulais savoir aussi s'il y avait eu un travail d'équipe dans le collège.
Oui, il y a eu un gros travail d'équipe pendant le projet. Après, ce que tu dis, Julien, est-ce que ça a été vraiment repris ? Ça, c'est dur à savoir. Mais il y a une chose qu'on peut peut-être rappeler aussi, comme c'est une résidence. Pendant que Julien et Léna étaient au musée pendant une semaine, à 4 reprises, c'est ça ?
Ouais.
Sur l'année, il y avait un moment qui était réservé, une après-midi, où on se réunissait tous. C'est-à-dire que les élèves étaient invités, les gens du musée et les enseignants, une personne de la DRAC, et pour discuter de ce qui s'est fait, discuter de ce qui a marché ou pas, et discuter de ce qui va arriver. Donc c'était vraiment important aussi pour nous qu'on arrive à réunir tout le monde, y compris les élèves, pour qu'ils puissent être un peu les porte-parole ensuite dans la classe, pour un petit peu prévenir de ce qui arrive ou des choses qui ont marché.
Après, sur la notion d'équipe pédagogique, c'est un petit peu déconstruit, dans le sens où on avait quand même 4 établissements scolaires et où le lieu du travail, ce n'était pas l'établissement scolaire. Habituellement, ces résidences-là portées par les DRAC, elles sont dans l'établissement, elles rayonnent sur les classes autour. Là, le parti pris, c'était de déconstruire un petit peu le cahier des charges, et qu'en fait, 4 classes de 4 établissements convergent au Macval. Et du coup, l'équipe pédagogique, c'était une équipe reconstituée à partir des 4 établissements. Donc ça se jouait un petit peu différemment de peut-être ce qu'on connaît. Voilà. Et ça permettait aussi aux enseignants participants peut-être de sortir de leurs équipes pédagogiques habituelles et de se confronter à des enseignants dans d'autres contextes, bac technique, voilà, bac pro, tout ça, collège, UPE2A, pour reconstituer une sorte d'équipe pédagogique un peu temporaire. Voilà.
Moi, je me posais la question de savoir si vous aviez pu mesurer, même si c'est un peu trop pragmatique pour le projet que vous présentez, mais mesurer l'impact que ça a pu avoir sur la fréquentation du musée. Notamment, moi, je me pose la question des familles, des élèves qui ont participé, des quartiers, des proches, du voisinage, et de voir justement si ça ouvre le musée, si ça permet un élargissement des publics. Je le suppose et je l'espère.
Bah. On l'a un petit peu montré là dans le diaporama, mais on a eu quand même des temps de programmation intégrés à la programmation culturelle plus tout public, on va dire, en lien avec la résidence. Donc Julien, il a pu proposer des visites comptées sur des temps ouverts au grand public, etc. Ça n'a pas fait venir toutes les familles de tous les élèves, ça ce serait vraiment pipeau de le dire. Mais par contre, on a vraiment des élèves qui ont emmené leurs petits frères, leurs petites sœurs, des conférenciers qui ont emmené leurs familles, ce qui est chouette aussi. D'autres personnes qui sont venues sur ces temps-là, qui ont participé. On avait créé aussi un audio guide mythique qui a été en diffusion pendant plusieurs mois, je crois, dans le musée, et que du coup, un public vraiment élargi a pu tester et en fait expérimenter. L'un des enseignants, Nicolas Melin, qui est un enseignant de lettres, qui est, je pense, c'était le collège le plus proche géographiquement du musée, nous a dit que vraiment ses élèves avaient une pratique autonome. Pour certains, hein, c'est pas 100%, mais quand même, il sentait que ses élèves s'étaient approprié cet équipement. Donc voilà, il y a des effets, même s'ils sont pas statistiquement.
Et puis aller au musée, c'est pas simplement aller voir les œuvres. Certains élèves qui participent à des projets, ça fait 15 ans que je travaille avec le Macval. Normalement, un professeur relais, ça reste pas plus de 4 ou 5 ans. Je comprends pas pourquoi il continue à reconduire, mais tant mieux. Et je vois certains de mes élèves venir au Macval, mais ils peuvent être dans le jardin quand il fait beau. Ils peuvent être dans le hall d'entrée, dans une salle, mais pas forcément à regarder les œuvres. Ou alors parfois, il y a des œuvres où il y a des fauteuils confortables avec des vidéos. Ils y restent plus de 30 minutes. Ils ne sont pas en train de regarder la vidéo. Ils sont en train d'aller sur Snapchat. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais en tout cas, ils sont dans le musée. Ils sont au milieu des œuvres. Et c'est aussi ça, regarder les œuvres. Enfin, je ne sais pas. C'est aussi être parmi les œuvres.
Il y a une des classes qui a participé la première année. Elle a clairement participé parce que les élèves demandaient à continuer à travailler avec nous aussi. Donc, au départ, ils souhaitaient faire plutôt un projet choré, mais on leur a proposé un projet compte. Mais ça s'est très bien passé. Pour dire aussi qu'il y a des relations beaucoup plus long cours avec certaines classes et que là, ils sont prescripteurs. Enfin, c'est eux qui nous demandent à continuer de participer. C'est pas nous.
Au MacVal, on est plutôt chanceux dans la mesure aussi, je parle des établissements scolaires qui se rendent au MacVal, c'est que le Conseil général met à disposition des cars dans tout le Val-de-Marne pour chercher les élèves au pied du collège et les ramener ensuite. Et tout ça, c'est gratuit. Et quand ils suivent une visite, la classe est divisée en deux, ils ont deux conférenciers. Donc on est quand même dans du super luxe. Donc de ce point de vue-là, les élèves, oui, pour certains, ils ont vraiment envie de revenir parce qu'ils ont quand même vécu quelque chose d'assez confortable. Ils ont senti qu'on prenait soin d'eux. Ce n'est pas le cas de toutes les structures culturelles. Elles n'ont pas forcément cette facilité.
Et peut-être, alors ça va faire rêver, mais en termes de confort financier, le projet est un projet long et cher, forcément. Mais dans la participation financière des établissements, en fait,
ça met la pression.
Très, 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 très modeste, enfin. Non, mais souvent, l'argent est un frein. Là, voilà.
Sur les dossiers.
Non, sans rentrer dans les détails, mais juste pour.
Je ne vais pas m'en vanter non plus. Non, mais. Non, c'est vrai que. Moi, j'ai découvert ça en arrivant au MacVal il y a 5 ans. Il y a une politique du département, c'est un équipement départemental très très engagé, hein, notamment vis-à-vis des collégiens, et que finalement ça s'adapte un petit peu, mais quelle que soit l'échelle du projet, la participation financière demandée est relativement faible. Donc sur ce projet, on peut dire, hein, je sais pas, c'est toi qui voulais qu'on en parle, mais voilà.
Je pense que ça, oui, ça peut être intéressant pour un certain nombre de gens dans la salle de voir comment ça se passe ailleurs aussi, sur ce plan-là.
Ouais, les collèges participants chaque année contribuent à hauteur de 450 euros, ce qui est vraiment anecdotique, je pense. Moi, ça me pose même question parfois. Et les lycées à hauteur de 550 euros, puisque la tutelle est différente, la compétence n'est pas distribuée pareil. Mais par contre, enfin voilà. C'est une vraie facilité, ça contribue au même titre que la mise à disposition de transport, etc. Mais voilà.
Bon. Et l'aide de la DRAC, ouais. Très conséquente.
Bien sûr, ouais. Ouais. Je ne sais pas quoi en dire d'autre, en fait, à part que c'est du coup forcément très facilitant et engageant et que ça lève plein de freins chez des enseignants qui pourraient hésiter à collaborer avec une structure. Mais bon, ça reste... voilà. Je ne sais pas quoi en dire d'autre.
C'est un projet financièrement qui est très lourd, qui a été supporté par la DRAC. Mais on a souvent mis en place des projets comme des projets inter-établissements où c'est la DAC qui s'occupe de l'action culturelle. Donc on monte un dossier et puis ensuite on reçoit une enveloppe dans chaque établissement et puis on rémunère les intervenants. Et cette enveloppe, elle peut osciller entre 200 et 400 euros. Donc là, les établissements... Finalement, ils lâchent l'enveloppe qu'on leur a donnée. Là, dans ce projet-là, c'est les 300 euros ou les 400 euros, c'était aux frais de l'établissement. Quoi. Voilà. Non, j'ai dit n'importe quoi. Là. Mais oui, tu vois, tu ne veux pas aller jusqu'au bout aussi. Donc, je suis obligé de continuer avec du n'importe quoi.
Alors, j'ai posé la question, c'est combien l'argent de la DRAC consacrée,
La DRAC, elle a donné 20 000 euros sur 2 ans.
Et le budget du projet ?
Et nous, on a donné 20 000 aussi, d'accord. Grosso modo. Donc, on est à 40 000 et quelques.
D'accord.
On a la chance aussi, mais je dis vraiment, c'est des choix politiques. Hein, c'est pas, Je ne m'en vante pas parce que je sais que pour avoir vécu et travaillé dans des structures plus précaires avant, ce n'est pas du tout partout le cas, mais on a aussi des budgets de fonctionnement sur l'action éducative et culturelle qui sont vraiment confortables, qui nous permettent de travailler bien et de donner des bonnes conditions de travail aux intervenants qu'on invite. Même si je sais que tout le monde a le souci de fournir ces conditions partout, quel que soit l'état de la structure et le soutien politique. Nous, on a vraiment jusqu'à présent, en tout cas, une vraie volonté politique qui nous sécurise et qui nous permet d'expérimenter bien. Voilà. Ouais, 40 000 et quelques euros, je dirais.
Bon, peut-être une dernière question dans la salle ?
Oui, bonjour. Une question que je me pose quant au projet lui-même, tel qu'il a été exposé, j'ai l'impression qu'il pourrait aussi bien trouver place dans un musée des Beaux-Arts ou un musée, finalement, n'importe quel musée de société. Et je me pose une question par rapport aux œuvres elles-mêmes. On a des œuvres qui parlent d'une société actuelle, enfin, ce sont des œuvres contemporaines. À quel moment vous avez pu réussir diriger les élèves vers ces questions-là, puisque enfin, je sais que la mythologie, ça peut parler de notre société actuelle, mais je me demande si à un moment il y a eu rencontre de ce côté-là.
Bah, c'est intéressant parce que au bout de deux sessions, les élèves qui étaient en option art appliqué, donc avaient déjà un engagement par rapport au champ de l'art, plus fort que d'autres sections, nous ont réclamé des visites guidées classiques, quoi. Ils en avaient marre qu'on délire. En tout cas, ils voulaient le vrai discours, la version officielle, et justement le lien à des enjeux contemporains, ils le réclamaient. Je peux commencer de répondre comme ça. Et je pense que toi, tu as une autre...
Oui, après, en fait, quand on est face aux œuvres en racontant une histoire, bah, l'œuvre nous emmène dans des questionnements qui, des fois, tordent vraiment l'histoire et qui peuvent s'approcher vraiment des questionnements contemporains. Mais enfin, on peut plonger en plein dedans. Je pense que cette mythologie, elle est très contemporaine, en fait. Le fait qu'il y a encore aujourd'hui tellement de metteurs en scène qui s'emparent des pièces classiques, c'est parce que ça parle de la guerre, ça parle de... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui très présentes, et c'est juste un outil. Mais effectivement, on pourrait s'en servir. Alors, dans un musée des Beaux-Arts, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a déjà des œuvres qui parlent beaucoup de mythologie. Et en fait, dès qu'on rentre dans quelque chose de l'ordre de la redondance, ça perd beaucoup de sa force. Vraiment, ce qui est intéressant, c'est de faire se rencontrer des œuvres, des histoires, comme des œuvres plastiques, qui ne sont pas faites pour aller ensemble. Et c'est là que ça tire, c'est là que ça questionne, c'est là... Mais après, j'ai fait aussi des balades urbaines dans la ville de Saint-Étienne, où on se promenait dans la ville, et le jeu, c'était de faire comme si la ville n'était faite que pour raconter des histoires de la mythologie grecque. Et ça amène à voir la ville aussi, et ça pose des questions, en fait, avec la mythologie, ça pose des questions urbanistiques très contemporaines, j'ai l'impression, en tout cas.
Après, c'était pas forcément l'enjeu du projet, et par rapport à la question que ça puisse s'appliquer à plein d'autres musées, voire à d'autres contextes, comme disait Julien, l'édition qu'on a évoquée à plusieurs reprises, elle est aussi faite pour ça. On a travaillé sur un format poche, facile à transporter, et du coup il n'y a plus du tout la notion de, enfin, c'est plus Macval, quoi. L'idée, c'est que cet outil puisse être, c'est un outil avec des matériaux à réactiver, et ce qu'on espère, c'est que les gens puissent le rejouer dans d'autres contextes muséaux, voire hors du musée. Voilà.
C'est-à-dire que dans l'édition, il y a deux parties. Il y a une partie qui va retracer toute la résidence de manière beaucoup plus cohérente que ce qu'on a pu faire là, mais avec plus de temps aussi. Et puis une deuxième partie qui sont des outils. Et dans ces outils, il y a la table des symboles et il y a des fragments de mythologiques avec l'idée que on peut les emmener avec soi et les utiliser partout. Il y a des petites règles du jeu à réutiliser.
Donc.
Est-ce qu'il y a une autre question avant de finir cette journée par la synthèse de Marion Denisot? Ce qu'on peut peut-être dire, le temps qu'elle se prépare, c'est que cette édition dont vous parlez, qui va sortir très prochainement, il me semble. Je vous regarde coup.
Mi-décembre.
Mi-décembre.
Le 10 décembre.
En fait, sur le site du PREAC, vous avez le site internet sur le document de présentation de cette journée. Il y aura un ensemble de ressources et de documents liés à ce projet. Et notamment, on transmettra également l'édition en version numérique. Donc, vous pourrez avoir le prolongement de ce qui a été dit ou rentrer dans le projet avec d'autres entrées peut-être via la documentation qu'on pourra mettre à disposition sur le site internet du PREAC.
Et Émilie ? Émilie a fait partie des contributeurs et contributrices à l'édition. Et elle a eu c'était super d'avoir son regard de personne totalement extérieure au process en fin de travail aussi. Donc voilà. Et une après-midi conspirationniste.
Voilà. Écoutez, merci. Ça donne envie de voir l'édition papier quand elle sortira ou en ligne à défaut. Voilà. Merci. Marion, à toi.